Il est 14h ici à Paris, 8h à Port-au-Prince.
RFI Midi. Clotilde Dumais.
Allez, encore une demi-heure à suivre sur le continent américain avec, dans un instant, les dernières informations en Haïti. Ce sera avec Franz Duval du Nouvelliste. Au Honduras, décision importante de la Cour suprême qui a confirmé les sentences prononcées contre 7 personnes dans l'assassinat de la militante écologiste Berta Cáceres. On va y revenir. Et puis ce reportage qui a du chien dans une quinzaine de minutes. Les Brésiliens sont tellement fous de leurs toutous qu'ils n'hésitent pas à les emmener dans des spas ou des salons de toilettage ultra sophistiqués.
Ici, nous avons un masque hydratant, un baume pour le museau, un soin sans rinçage pour le poil et une crème pour les coussinets.
Voilà, reportage en intégralité dans une quinzaine de minutes. Et puis juste après, ce sera le journal des Outre-mer. Bonjour Alex Léveillé.
Bonjour.
On ira en Guyane et en Martinique.
Et oui, pour parler de médecine et de politique.
À tout à l'heure Alex Léveillé. D'abord, c'est le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Le message de Vladimir Poutine envoyé à Kiev est très clair.
Le président russe l'a confirmé, l'attaque massive menée contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine aujourd'hui est une réponse au tir de missiles américains à longue portée sur son territoire. Washington avait autorisé Kiev à les utiliser il y a 10 jours, avant le départ de Joe Biden de la Maison-Blanche. Moscou avait menacé d'une escalade militaire. Au total, avec cette attaque, plus d'un million d'Ukrainiens sont désormais privés d'électricité. Romain Lemaresquier.
Moscou avait promis une réponse ce mardi après de nouvelles frappes ukrainiennes avec des missiles de longue portée américains sur le sol russe quelques jours auparavant. Et cette réponse est sans doute l'attaque aérienne massive de la nuit dernière. Une attaque en deux phases. D'abord, seules quelques régions ont été visées. Puis tôt ce matin, les alertes aériennes ont été déclenchées dans tout le pays. Selon le ministère ukrainien de la Défense, la Russie a lancé au total 188 engins, des missiles de croisière de différents types ainsi que des drones qui visaient principalement les infrastructures énergétiques. Odessa, Kharkiv, Dnipro, Kiev ont par exemple été visés. Résultat, ce jeudi matin, environ 1 million d'Ukrainiens n'avaient plus d'électricité. Des coupures d'eau sont également signalées dans de nombreuses localités. Même les régions proches des frontières polonaises et roumaines sont concernées. À Lviv, par exemple, 500 000 personnes sont sans courant et cette situation risque de durer. Le réseau énergétique ukrainien est dans un piteux état après 3 ans de guerre et malgré des techniciens de maintenance qui ne cessent de réparer le matériel détruit, la situation devient très compliquée, ce qui a un impact sur le moral des Ukrainiens, surtout que l'hiver approche et que le thermomètre commence à descendre cette semaine en dessous de zéro.
Et le président ukrainien accuse la Russie d'avoir utilisé des bombes à sous-munitions dans l'attaque, des engins qui se retrouvent un peu partout sur les sites attaqués et qui peuvent exploser plus tard et compliquer encore le travail des sauveteurs et retarder les réparations. C'est ce que dénonce Volodymyr Zelensky. En Roumanie, la Cour constitutionnelle vient d'ordonner un recomptage des voix du premier tour de la présidentielle. Calin Georgescu, candidat d'extrême droite pro-russe, s'était qualifié pour le second tour à la surprise générale. Grand favori du scrutin, le Premier ministre avait lui été éliminé.
Au Liban, les habitants déplacés continuent de prendre la route pour rentrer chez eux après le cessez-le-feu.
Mais l'armée israélienne réitère ses avertissements. Les Libanais du Sud ont l'interdiction de rejoindre les localités les plus proches de la frontière avec Israël. À 2 reprises, un char a ouvert le feu dans le secteur pour dissuader la population d'avancer. Et dans les zones bombardées, surtout après 2 mois de frappes intensives, tout est à reconstruire. Les dégâts sont immenses dans certaines régions et les besoins aussi, notamment dans le domaine médical. Le docteur Eli Haddad est président de la Euro-Lebanese Medical Society, une organisation qui regroupe plus de 800 professionnels de santé en Europe et qui soutient le Liban. On l'écoute.
Bien sûr, il y a des besoins énormes parce que cette dernière bataille n'a pas épargné du tout les hôpitaux, les centres médicaux, les dispensaires. Il y a eu beaucoup de dispensaires qui ont été détruits complètement. Il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas pu faire le boulot. Il y a plus d'un million de déplacés. Donc il y a des besoins énormes actuellement dans le cadre d'une crise économique hors pair, comme vous le savez, au Liban actuellement. Donc les besoins sont énormes pour assurer les soins, même les soins de base. Tant qu'il y a des besoins qui se ressentent sur le terrain, on continue à envoyer tous les produits de première urgence, les compresses, les bétadines, les soins, parce qu'il y a des blessés, etc. tous les médicaments pour les soins chroniques, mais là, les médicaments, c'est un peu compliqué à avoir. On ne peut pas avoir facilement, on ne peut pas acheminer facilement. On a aussi beaucoup de besoins en produits d'hygiène. Tout ça, c'est un énorme besoin.
Le docteur Eli Haddad, interrogé par Muriel Paradon, et à Beyrouth, les autorités libanaises ont bien l'intention d'avancer après le cessez-feu et de sortir enfin de la crise politique ouverte depuis 2 ans entre le Hezbollah et les autres partis. Le poste de chef de l'État est toujours vacant. Le Parlement a décidé de se réunir en janvier pour élire le futur président.
Aux États-Unis, la victoire de Donald Trump a déjà des conséquences pour les droits LGBT+.
Le vent a tourné avant même la présidentielle. Une vaste campagne contre la discrimination positive ou encore contre les droits des minorités LGBT est menée. Plusieurs grands groupes américains revoient à la baisse ou abandonnent carrément leur politique de promotion de la diversité. Justine Fontaine.
Dernier exemple en date, et pas des moindres, Walmart, premier employeur privé du pays. La chaîne de supermarchés a décidé cette semaine de fermer une ONG de lutte contre le racisme qu'elle avait lancée en 2020. Peu après, alors le meurtre de George Floyd par un policier américain. Walmart a aussi annoncé supprimer de son site internet des vêtements destinés aux personnes transgenres. Le géant de la grande distribution, qui emploie plus d'1,5 million de personnes aux États-Unis, a cédé à des menaces de boycott lancées sur les réseaux sociaux par un fervent partisan de Donald Trump, pour qui les mesures pro-diversité pénalisent les hommes blancs. Ces derniers mois, Ford ou encore Harley Davidson et Jack Daniels ont aussi rétropédalé concernant leur politique en faveur de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion. Les groupes de pression ultra-conservateurs se sentent galvanisés par l'élection de Donald Trump, mais aussi par la décision de la Cour suprême l'an dernier de mettre fin au programme de discrimination positive à l'université. Une initiative qui remontait aux années 60, en plein mouvement de lutte pour les droits civiques.
Les précisions de Justine Fontaine. En France, le gouvernement joue sa survie et tente d'éviter la censure.
Et la tâche n'est pas aisée. Ce matin, le ministre de l'économie se dit prêt à faire un geste sur la hausse de la taxe prévue sur l'électricité. C'est l'une des lignes rouges fixées par le Rassemblement national. Le parti d'extrême droite menace de voter la censure en cas de relèvement de cette taxe. Dès lundi, le gouvernement pourrait passer en force avec le 49-3 pour faire adopter le budget. Les oppositions pourraient s'unir, voter une motion de censure en retour et faire tomber l'exécutif. 5 mois seulement après les législatives et la construction laborieuse d'un gouvernement, beaucoup de Français semblent désabusés. Amélie Beaucourt est allée les sonder.
S'il y a une censure, c'est le jeu démocratique et j'ai élu des représentants et je compte sur eux pour défendre des idées auxquelles je souscris.
Pour moi, c'est de l'ordre du fantasme et de toute façon, ça ne change rien. Et même si derrière, on avait encore un nouveau gouvernement, il ne se passera rien non, jusqu'à la fin du mandat, c'est sûr.
Je trouve ça lamentable que des gens dont le métier, c'est de gouverner la France, s'amusent à des querelles intestines. C'est des gros débiles. On ne devrait même pas voter pour eux, quoi.
C'est des oppositions qui ne servent pas à grand-chose. C'est des batailles politiciennes. Et au final, ça dessert le français, le citoyen. C'est jamais dans notre intérêt.
De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire. Le gouvernement a été proposé. Ils ont déjà mis assez de temps comme ça pour le faire. S'il doit se redéfaire, en un mot, c'est un peu la merde.
Alors moi, j'en ai rien à foutre. Tout plonge en ce moment, la bourse a dégringole, on perd du pognon. Il va y avoir une censure, hein, c'est sûr. Hein. S'il faut recommencer, on recommencera.
Petit panel de Français en pleine forme, au micro d'Amélie Beaucourt. Toujours en France, la mobilisation des agriculteurs continue contre le Mercosur, contre les établissements publics aussi. Ils ont été ciblés un peu partout sur le territoire, comme à Paris ce matin. Une centaine d'agriculteurs a monté à l'aube un mur de parpaings devant l'INRAE. L'Institut de la recherche pour l'agriculture et l'environnement est accusé, comme d'autres structures de l'État, d'empêcher la profession de travailler comme elle l'entend. La ministre de l'Agriculture a condamné avec la plus grande fermeté toute atteinte aux personnes et aux biens qui nuit aux revendications légitimes des agriculteurs. Voilà, Clotilde, c'est la fin de ce journal.
Le journal de Karine Bellicha.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
L'actualité en Haïti, nous sommes en ligne avec Franz Duval, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Alors à la une de votre journal Le Nouvelliste, d'abord les gangs qui font encore des victimes dans l'Artibonite.
Tout à fait. L'Artibonite, c'est l'autre département géographique d'Haïti qui est infesté par les gangs. Hier, on annonçait la réouverture d'un commissariat à Liancourt. Ça faisait 2 ans que le commissariat a été fermé. Aujourd'hui, on annonce qu'il y a eu des attaques dans un autre village, toujours dans l'Artibonite. Encore les gangs, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont été enlevés, des têtes de bétail qui ont été volées. Cela ne s'arrête pas. Les gangs attaquent. À chaque fois, ils changent de position, ils changent de cible, mais c'est la même stratégie. Ils déstabilisent l'Artibonite, qui est une grande plaine agricole, une zone plutôt riche. Mais malheureusement, les gangs, ça ne s'arrête pas et la police ne peut pas être partout à la fois.
Autre sujet que vous évoquez dans votre édition de ce jeudi, les violences sexuelles qui augmentent en Haïti.
Tout à fait, c'est un rapport de Human Rights Watch qui explique que non seulement les violences sexuelles augmentent, les femmes sont des cibles pour les gangs. Quand ils font leur razzia, qu'ils attaquent un quartier, eh bien, les femmes sont violées, les femmes sont violentées. Il y a beaucoup de trauma, mais surtout, il n'y a pas de réponse parce que souvent, les institutions qui auraient pu aider après ces violences sexuelles n'existent quasiment plus et ces femmes sont doublement victimes et même triplement victimes parce que souvent, dans cette affaire, ils ont aussi perdu leur foyer, là où ils habitaient. Ils sont à la rue, sans recours auprès des autorités, auprès des institutions qui auraient pu les aider. C'est une crise dans la crise.
Alors, on va terminer quand même avec un sujet un petit peu plus léger en France. L'écrivain haïtien Dany Laferrière a été honoré au Canada avec un timbre postal à son effigie, un timbre qui a été dévoilé hier.
Tout à fait, c'est le Salon du Livre de Montréal et on a dévoilé un timbre postal à l'effigie de Dany Laferrière. Ça fait sourire à Port-au-Prince. Il n'y a quasiment plus de service postal en Haïti. Tout cela a été désorganisé avec les années de crise. Chacun se demande si un jour on recevra une lettre avec Dany Laferrière comme timbre, mais quand même, c'est une très bonne nouvelle vue d'Haïti. Cet écrivain qui est académicien, membre de l'Académie française, à chaque fois, il rend les Haïtiens un peu fiers et on partage un peu ses succès, même s'il est loin, même s'il n'est pas avec nous sur le terrain, mais quand même, ça fait plaisir.
Merci beaucoup, Franz Duval, du journal Le Nouvelliste, pour cette revue de l'actualité haïtienne. Haïti qui fait donc décidément l'actualité au Canada. Bonjour, Arim Lipold.
Bonjour, Clotilde. Bonjour à tous.
C'est le premier sujet de votre revue de presse.
Et oui, et c'est l'histoire de 3 Haïtiens refoulés à la frontière en tentant d'entrer au Canada. Ça s'est passé lundi dernier, et c'est-à-dire dans le journal de Montréal. Les 3 migrants, 2 hommes et 1 femme, voulaient quitter les États-Unis faute de perspective de travail. Ils disent avoir le statut de réfugiés aux États-Unis, rencontrés par le journal à l'extérieur d'une gare routière dans l'État de New York. Les 3 hommes, les 2 hommes et la dame ne savaient pas encore ce jour-là où ils allaient passer la nuit.
Alors Arimo, restez avec nous pour la suite de votre revue de presse, ce sera dans un instant.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Mais d'abord au Honduras, du nouveau dans l'affaire Berta Cáceres. La Cour suprême a confirmé les sentences prononcées contre 7 personnes dans l'assassinat de la militante écologiste, assassinat commis il y a plus de 8 ans. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Berta Cáceres s'opposait à la construction d'un barrage hydroélectrique sur le territoire du peuple autochtone Lenca auquel elle appartenait.
Oui, lorsqu'elle a été assassinée le 2 mars 2016, cela faisait des années que Berta Cáceres recevait des menaces. Et pourtant, malgré la demande de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, elle ne bénéficiait d'aucune protection de la part de l'État hondurien. Sous la pression, affirme sa famille, de ceux qui défendent le secteur minier et les entreprises hydroélectriques. Et si, ce mardi, la Cour suprême a confirmé les sentences prononcées contre 7 des meurtriers de Berta Cáceres, c'est en dépit de pressions toujours bien présentes, explique sa fille Berta Zuniga.
Ces groupes économiques qui font partie des 10 familles les plus riches du Honduras continuent d'intervenir et de faire obstacle. Nous avons fait face à d'importantes campagnes de communication qui ont engendré des manquements dans l'enquête et qui tentent de délégitimer notre demande de justice. Il y a aussi eu des actes d'intimidation de personnes parties prenantes dans l'enquête, non seulement contre des membres du parquet, mais aussi contre des personnes très importantes, pour ce qui est par exemple des enregistrements téléphoniques qui constituent la base de l'accusation contre les assassins de ma mère.
Berta Zuniga regrette ainsi que la Cour ait décidé de modifier les circonstances aggravantes retenues contre un des condamnés qui pourrait voir sa peine réduite. David Castillo était le directeur exécutif de l'entreprise DESA qui devait construire le barrage. Selon l'accusation, c'est lui qui a organisé le meurtre.
Les précisions de Christophe Paget. C'est l'une des grandes promesses de campagne de Donald Trump, mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine. Pour cela, il vient de créer un nouveau poste au sein de son administration, celui d'envoyé spécial pour la Russie et l'Ukraine. Et une fois de plus, il a nommé l'un de ses fidèles à ce poste. Son portrait avec Guillaume Nodin depuis Washington.
Il est avec moi depuis le début, dit Donald Trump dans un post sur son réseau social personnel. Le général à la retraite Keith Kellogg, 80 ans, devient donc assistant du président, un poste qui n'existe pas, et envoyé spécial pour la Russie et l'Ukraine. Si Donald Trump donne cette marque de confiance, c'est qu'effectivement Keith Kellogg a déjà servi dans sa première administration comme chef de cabinet et secrétaire général du Conseil de sécurité nationale. Au cours de ses 35 ans de carrière dans l'armée, Keith Kellogg a notamment été au Vietnam et en Irak. Plus récemment, il a travaillé dans un cercle de réflexion conservateur trumpiste. C'est là qu'il a exprimé ses vues sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il préconise des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie et dit que ce serait une condition pour que les États-Unis continuent à armer l'Ukraine. Le but étant, selon lui, de s'assurer que la Russie ne fera pas de nouvelles avancées et n'attaquera pas à nouveau après un cessez-le-feu ou un accord de paix. Keith Kellogg envisage aussi de remettre à plus tard une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pendant la campagne, Donald Trump a promis, sans préciser comment, de mettre fin au conflit qui dure depuis près de 3 ans. Il affirmait même qu'il pourrait le faire avant même de revenir dans le bureau ovale le 20 janvier. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et c'est donc dans ce contexte, alors que la future administration Trump s'apprête à reprendre le dossier de l'Ukraine, que la presse américaine révèle une information à Rim Lipold qui risque de froisser Kiev.
Oui, Clotilde, les autorités américaines reconnaissent que les États-Unis ne seront pas en mesure de dépenser la totalité des fonds autorisés pour le transfert d'armes à Kiev d'ici le 20 janvier, date à laquelle, vous savez, Donald Trump prendra donc officiellement les rênes de la Maison-Blanche. C'est ce que rapporte en tout cas le Wall Street Journal. L'administration Biden, écrit le quotidien, n'a plus assez de temps pour utiliser les milliards de dollars que les législateurs ont déjà débloqué pour armer l'Ukraine. Ce sera donc au président élu Donald Trump de décider ce qu'il convient de faire avec l'argent restant, c'est-à-dire plus de 6,5 milliards de dollars. De l'argent qui doit en fait permettre de récupérer des armes et de l'équipement provenant des stocks de l'armée américaine. Alors, problème, le Pentagone a atteint la limite du nombre d'armes qu'il peut envoyer à l'Ukraine chaque mois sans affecter sa propre capacité de combat. Et il est confronté aussi à des défis logistiques pour les acheminer aux forces de Kiev, ont expliqué des responsables américains.
Toujours aux États-Unis, Arim, ce débat sur la guerre high-tech.
Eh oui, le site Politico s'intéresse aujourd'hui aux ambitions de certains dirigeants de la tech comme Elon Musk, qui milite pour remplacer les avions et les chars par des drones. Musk affirme que ces technologies sont plus efficaces et notamment plus économiques. Mais l'amiral Samuel Paparo, chef du commandement Indo-Pacifique, qui s'exprime également dans le journal Politico, n'est pas convaincu. Pour lui, le Pacifique est tellement immense que sa surveillance nécessitera encore des navires et des avions de chasse avec équipage.
Alors Elon Musk, qui fait partie de la future administration Trump, qui, elle, inquiète la presse mexicaine.
Oui, Mélenchon revient sur un échange téléphonique entre Donald Trump et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Ça s'est passé hier. Donald Trump affirme que le Mexique aurait accepté de stopper l'immigration clandestine, mais Sheinbaum dément, soulignant que la position du Mexique n'est pas de fermer les frontières, mais de construire des ponts. L'immigration est un sujet évidemment d'inquiétude pour le Mexique, tout comme l'augmentation des droits de douane à hauteur de 25%. Ce que dit Donald Trump ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais il faut le prendre au sérieux, estime Mélenchon. Les droits de douane ont été l'une de ses promesses de campagne les plus répétées, même si l'application de la mesure, selon Mélenchon, provoquera de l'inflation et des perturbations dans l'économie américaine. Le journal suggère d'ailleurs au gouvernement mexicain d'élaborer rapidement une stratégie d'unité nationale.
On termine, Rime, avec Lula qui critique la position française sur l'accord du Mercosur. C'est à la une de la presse brésilienne.
Nous allons conclure l'accord de libre-échange avec l'Europe, a déclaré le président Lula hier lors d'un discours devant les chefs d'entreprise, des propos repris par le journal Carta Capital. Nous allons le faire parce que cela fait 22 ans que je suis sur ce dossier, a ajouté Lula, selon lequel la France ne pourrait pas s'y opposer car c'est la Commission européenne, selon lui, qui aura le dernier mot. Des déclarations qui illustrent la crise de confiance que le Brésil et la France traversent actuellement, selon le journal O Estadão.
Arim Lipold pour la revue de presse, merci beaucoup.
RFI, as vozes do mundo.
Et on reste au Brésil, puisque c'est un peu une sorte de paradis pour les animaux de compagnie. Ils sont 4 fois plus nombreux que les enfants dans le pays. Et les pets, comme on les appelle là-bas, sont de plus en plus chouchoutés. Des spas spécialisés, des toilettages de pointe et même de la chromothérapie. Leurs maîtres sont prêts à tout pour le bonheur de leurs animaux. Reportage à Rio de Janeiro avec la correspondante de RFI, Sarah Cozzolino.
Il est midi, nous sommes au Club Pet dans le quartier chic de Leblon à Rio de Janeiro. Les chiens viennent à la journée pour socialiser, jouer, se défouler avant de rentrer à la maison. Dans une salle climatisée avec des bruits d'ambiance et des spots de couleurs apaisantes, les chiens sont en pleine sieste.
Ils viennent de déjeuner et nous diffusons ces sons un peu partout dans la crèche pour qu'ils puissent se reposer calmement.
Hilda Cavalcanti gère ce centre qui est à la fois une crèche, un hôtel et un cabinet de soins pour animaux de compagnie.
Le service client est individualisé. J'envoie des nouvelles, des photos pendant la journée.
Hilda travaille depuis 24 ans dans ce secteur, mais elle a remarqué une véritable augmentation des adoptions d'animaux de compagnie et notamment de chiens depuis la pandémie. Des personnes qui n'avaient jamais eu d'animaux ont eu besoin de combler leur solitude.
C'est arrivé à un point où j'ai parfois des clients qui viennent pour la première fois faire l'adaptation à la crèche. Et les clients pleurent parce que leurs chiens vont dans une salle pour jouer avec d'autres chiens. C'est pour vous donner une idée de la dépendance qu'ont les personnes aujourd'hui envers leur animal.
Anna Christine a eu un premier chien il y a 20 ans, mais pendant la pandémie, elle a décidé d'adopter Ziggy, un bâtard de 3 ans qu'elle amène à la crèche dès qu'elle sort de chez elle pour quelques heures.
Je lui remets son chien et je dois m'écarter tout de suite. Vous voyez ? Chaque chien a sa particularité.
Il est beaucoup plus attaché à moi que mon chien précédent. Il grogne sur les gens qui s'approchent de moi. Il est ultra protecteur par rapport à moi. Mais c'est aussi parce que j'ai une relation beaucoup plus proche avec lui.
Avec des soins de plus en plus spécialisés, le marché des animaux de compagnie est en pleine expansion au Brésil. Il a dégagé un chiffre d'affaires de près de 69 millions de reais, soit 11 millions d'euros en 2023. Une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Dans une galerie commerçante, le salon de toiletage Yoga Pets propose une gamme très variée de soins. On peut faire tondre et laver son chien, mais aussi lui appliquer des autocollants, des pinces colorées ou encore une cravate.
Ici, nous avons un masque hydratant, un baume pour le museau, un soin sans rinçage pour le poil et une crème pour les coussinets.
Marcia Abad a ouvert sa boutique cette année. Elle est très attentive au marché et suit particulièrement la mode aux États-Unis, leader sur le marché.
Demain, nous avons une chienne qui va venir pour une coloration de sa queue en rose et bleu. On essaye de suivre la tendance.
Les propriétaires ne reculent pas devant les prix pour donner le meilleur à leurs animaux. Entre l'alimentation et le toiletage, Camila dépense entre 100 et 150 euros par mois.
Ces animaux finissent par vraiment faire partie de notre famille. Ils sont vraiment comme nos enfants. Alors pour ceux qui aiment ça, forcément, on veut donner tout ce qu'il y a de meilleur. Comme on le ferait pour nos enfants ou un parent, tout ce qui va améliorer leur bien-être et leur longévité.
Dans son centre, Marcia propose aussi des soins de thérapie holistique et énergétique, comme de la chromothérapie ou encore du Reiki pour aligner les chakras des bêtes, mais elle constate que leurs problèmes comportementaux viennent souvent de la même cause.
Un maître angoissé. Donc j'essaye toujours de façon délicate de lui en parler pour qu'il recherche aussi une thérapie. Parce que si le maître ne prend pas soin de lui, le chien non plus n'ira pas bien.
Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et peut-être que les chiens brésiliens écouteront cette musique américaine, celle de l'un des groupes révélations de cette année 2024, les 4 frères et sœurs d'Infinity Song. Leur soft rock nostalgique et rafraîchissant s'exprime sur un 2e album sorti cette année avec le label du rappeur Jay-Z. Et cet album s'appelle Metamorphosis Complete. On l'écoute avec Olivier Roger.
Il fut une époque où les groupes familiaux tenaient le haut de l'affiche dans la musique américaine. Les Jackson 5, les Jonas, les Osmonds ont marqué les esprits. Aujourd'hui, Infinity Song réhabilite le genre avec un soft rock tout droit venu des 70s. Les quatre frères et sœurs Boyd, formés par leurs parents, ont grandi autour d'une table où les repas de famille se transformaient immanquablement en ateliers musicaux. Installée à New York au début des années 2000, la famille joue, compose, enseigne. En 2014, 4 des 9 enfants fondent Infinity Song et commencent à se produire dans les rues de New York avec une prédilection pour les reprises folk et acoustiques. Leur talent ne passe pas inaperçu et c'est le rappeur Jay-Z qui les fait signer sur son label Rock Nation. Infinity Song propose alors des compositions originales qui deviennent rapidement virales sur les réseaux sociaux. Metamorphosis Complete, la métamorphose est terminée, deuxième album d'Infinity Song, confirme leur immense capacité à réenchanter la musique tout en y introduisant un esprit de famille particulièrement bienvenu.
Voilà, Infinity Song, donc, avec son nouvel album Metamorphosis Complete.
Le journal de l'Outre-mer.
Allez, l'actualité de l'Outre-mer avec Alex Léveillé, bonjour.
Bonjour.
On part donc en Guyane et en Martinique.
Effectivement, avec 70 consultations déjà réalisées par le mammographe du centre hospitalier de l'Ouest Guyana à Saint-Laurent-du-Maroni. L'appareil est en service depuis un mois au CHOG, plus confortable et plus précis. Il constitue une réelle avancée dans le dépistage du cancer du sein en Guyane. Océane Dacunia de Guyane, la première.
G.E. Prestina, voici le petit nom du nouveau mammographe du centre hospitalier de l'Ouest. Ce nouvel appareil, plus moderne, plus performant, permet un examen moins douloureux pour les patientes. On écoute Pascal et Francette.
Plus l'examen est doux, et c'est pour ça, je crois d'ailleurs, que j'ai mis 20 ans avant d'en refaire une.
Agréablement surprise, et ça s'est très bien passé.
Un investissement de 400 000 euros a été nécessaire pour que l'hôpital se dote de cet appareil, très répandu dans les établissements de métropole. Un atout incontestable pour le docteur Léopold Wadjeto.
Quand les patientes ont des rendez-vous pour le dépistage, ben parce qu'elles ont entendu dire que c'est douloureux, c'est désagréable, elles peuvent ne pas venir. C'est vraiment un plus pour le dépistage du cancer du sein.
70 consultations ont déjà été réalisées depuis sa mise en service. L'hôpital espère tripler ses capacités grâce à ce nouveau mammographe.
Océane Dacunia de Guyane, la première. Et suite à des propos tenus récemment par le préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique, Serge Letchimy, estime que celui-ci n'avait pas à le faire et lui fait savoir dans une lettre qu'a lue Bertrand Caruge de Martinique la première.
La lettre commence en ces termes. Le représentant de l'État que vous êtes a jugé que les Martiniquais n'ont jamais travaillé ensemble à bâtir un projet d'avenir, projet que vous n'auriez jamais vu de la part de leurs élus. Tout comme vous avez nié jusqu'à l'existence même de monopole et d'oligopole en Martinique. Est ajouté, il est certain que le représentant d'un État démocratique, respectueux des institutions locales, ne devrait pas dire cela. Fin de citation. Ensuite, Serge Letchimy s'inscrit en faux, citant en exemple le congrès des élus de juillet 2022 à novembre 2023, soulignant au passage que cette démarche n'a toujours fait l'objet d'aucune réponse officielle de la part du gouvernement. Le président du conseil exécutif territorial cite aussi un document avec 57 projets d'un montant d'1 milliard d'investissements, document remis en 2022 à une commissaire européenne, ainsi que des propositions, 59 projets et 35 mesures phares, remises au ministère de l'Outre-mer en 2023. Il conclut la première partie en ces mots interrogatifs. Dès lors, comment peut-on avec sincérité soutenir que les Martiniquais n'ont aucun projet pour eux-mêmes? Serge Letchimy déclare en dernière partie être persuadé que le jour où sera supprimé le statut de préfet, on redonnera aux Martiniquais une part de leur capacité d'agir en leur permettant de porter leur propre projet de développement économique à partir de pouvoirs normatifs réels. Et concluant par cette formule, le respect mutuel s'impose.
Bertrand Caruge de Martinique, la première. Et c'est la fin de cette édition. Merci à Bruno Dessomme et Samuel Piqueur pour la mise en onde. Excellente journée à tous.
Merci beaucoup Alex Léveillé, très bonne journée. Il est bientôt 13h30, en temps universel, on termine avec un peu de musique. Lama para pa mis pies de Juan Luis Guerra.
De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré. Y te entregué mis sueños, mi greque, mi café. Y mi guitarra Gibson y una lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies.
La luz de tu mirada es.
Lámpara pa' mis pies.
El merenguito de mi fe.
Lámpara pa' mis pies.
rescataba el baile de tu besito de algodón. Y revelé tu risa sobre un papel maché. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies.
La luz de tu mirada es.
Lámpara pa' mis pies.
La tamborita.
La Mapara pas mes pièces de Juan Luis Guerra dans un instant sur RFI, de vive voix sur RFI. Donc, je vous souhaite une très bonne journée.
Le festival Quatre Chemins, le plus grand festival des arts vivants en Haïti, fête ses 21 ans du 25 novembre au 7 décembre à Port-au-Prince sur la thématique Non masque et mascarade pour défendre la jeunesse haïtienne. Au programme, création théâtrale et chorégraphique, projections, conférences et café poésie. Le festival Quatre Chemins du 25 novembre au 7 décembre. Plus d'informations sur festival4chemins.com en partenariat avec RFI.